Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 28. Le lendemain matin, Henchard, à qui sa situation de dernier maire en exercice assurait un an de magistrature, se rendit à l'hôtel de ville pour y présider, en face de la maison de Lucetta, une séance de justice de paix. Il leva en passant les yeux sur les fenêtres de la jeune femme, mais n'y put déceler aucun signe de sa présence. La nature d'Henchard pourrait, au premier abord, paraître aussi incompatible avec les fonctions de juge de paix que l'idée de sottise avec celle de silence. Mais son intelligence toute ronde et sa ferme droiture l'avaient souvent mieux servi qu'une connaissance approfondie des lois dans l'expédition des cas simples jugés devant son tribunal. Ce jour-là, en l'absence du docteur Schofield, maire en exercice, le marchand de blé s'assit dans le vaste fauteuil présidentiel, en gardant toujours les yeux distraitement fixés sur la façade de pierre de la maison de Lucetta. Il n'y avait qu'un cas à juger, et la délinquante se trouvait devant lui. C'était une vieille femme, au visage marbré, enveloppée dans un châle de cette teinte neutre que le temps fait à la longue, mais que les hommes ne créent pas. Une teinte qui n'est ni fauve, ni roussâtre, ni noisette, ni cendre. Elle portait un chapeau noir crasseux, qui paraissait venir du pays de psalmiste, où les nuages déversent de la graisse, et un tablier qui avait été blanc à une époque relativement assez récente pour faire un contraste marqué avec le reste de ses vêtements. La raideur que conservait cependant cette femme prouvait qu'elle n'était pas originaire de la campagne, ou même d'une petite ville. Elle jeta un regard furtif sur Henchard et sur son assesseur, et Henchard la regarda aussi, avec une brève hésitation, comme si elle lui avait confusément rappelé un fait ou un être, aussi vite sorti de son esprit qu'il y était entré. « Eh bien, qu'a-t-elle fait ? » s'enquit-il, en consultant l'acte d'accusation. « Elle est accusée d'inconduite et de scandale notoire, monsieur, » murmura Stubberd. « Où cela ?» demanda le second magistrat. « Près de l'église, monsieur, le dernier endroit à choisir au monde. Je l'ai pris sur le fait, votre honneur. »« Reculez un peu, » ordonna Henchard, « et racontez-nous ce que vous avez à dire. » Stubberd prêta serment. Le greffier trempa sa plume dans l'encre, car Henchard ne prenait pas de notes lui-même, et l'agent commença. « Attiré par un bruit illicite, j'ai descendu la rue à 11h25 de relevée, la nuit du 5 courant de l'année de Notre Seigneur. En arrivant, « Pas si vite, Stubberd !» souffla le greffier. L'agent attendit, les yeux sur la plume du greffier. Ce dernier ayant achevé et dit oui, Stubberd reprit. « En arrivant sur les lieux, j'ai vu la prévenue dans un endroit précis, à savoir le ruisseau. » Il s'arrêta en surveillant à nouveau la plume du greffier. « Le ruisseau. » « Oui, Stubberd. Endroit situé à 12 pieds 9 pouces environ de celui où je me... » Respectueux de l'écriture du greffier, Stubberd fit une nouvelle halte. Il avait appris son témoignage par cœur et se souciait peu du point où il s'interrompait. « Je n'admets pas cela, » protesta la vieille femme. « Endroit situé à 12 pieds 9 pouces environ de celui où je me... Ce n'est pas un témoignage sérieux. » Les magistrats se consultèrent. Et l'assesseur d'Henchard déclara que le tribunal considérait cette distance de 12 pieds 9 pouces comme acceptable sous serment. Avec un regard de triomphe contenu à l'adresse de la vieille femme, Stubberd reprit. « Trouvez moi-même. Elle vomissait, de façon gênante pour les passants, et quand je me suis approché d'elle, elle m'a injurié. »« M'a injurié ? Oui ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Éteins donc cette sacrée lanterne qu'elle a dit. » »« Oui. » Elle a dit « Entends-tu, vieille tête de pipe ? Éteins ta sacrée lanterne. J'ai collé des gens rudement plus forts qu'un maudit idiot comme toi, enfant de chameau. Je veux être pendu si ce n'est pas vrai, » qu'elle a dit. « Je proteste contre ce rapport-là, » interrompit la vieille. « Je n'étais pas en état d'entendre ce que je disais, et ce que je n'ai pas entendu ne compte pas comme témoignage. » Il y eut une nouvelle interruption et une consultation nouvelle. On se référa à un livre, et finalement Stubberd reçut l'ordre d'achever son rapport. La vérité est que la vieille femme avait bien plus souvent comparu devant un tribunal que les juges n'y avaient siégé eux-mêmes, et qu'elle les obligeait à serrer de près leurs procédures. Pourtant, après avoir écouté quelque temps encore le prolixe Stubberd, Henchard s'écria avec impatience. « Allons, nous en avons assez de votre maudit rapport. Parlez comme un homme, Stubberd, et ne soyez pas si modeste, ou laissez-nous tranquilles. » Puis, se tournant vers la femme, « Avez-vous quelques questions à poser au témoin, ou quelque chose à dire ?»« Oui, » répondit-elle, avec un éclair dans les yeux, tandis que le greffier trempait sa plume. « Il y a 25 ans, je vendais de la fromentée à la foire de Weydon. » Il y a 25 ans, voilà ce que j'appelle commencer par le commencement. Et si vous remontiez à la création, ricana le greffier avec ironie. Mais Henchard, le regard fixe, ne semblait plus tenir compte de ce qui avait ou non trait à l'affaire. Un homme, une femme et un petit enfant entrèrent dans ma tente, poursuivait la femme. Ils s'assirent et se firent servir chacun une bolée. Ah, seigneur, j'avais une plus belle situation dans le monde qu'aujourd'hui, et je faisais la fraude sur une grande échelle, en arrosant ma fromentée de rhum pour ceux qui en demandaient. Je le fis pour l'homme qui en reprit tant et si bien qu'il finit par se disputer avec sa femme, et proposa de la vendre au plus offrant. Un matelot entra, offrit 5 guinées, versa l'argent, et emmena la femme. Et l'homme qui a ainsi vendu sa femme est assis là, dans le grand fauteuil. La vieille se croisa les bras en désignant Henchard d'un signe de tête. Tous les yeux se tournèrent vers le marchand de grains. Son visage avait un air étrange et paraissait saupoudré de cendres. « On ne vous demande pas le récit de votre vie ou de vos aventures, » s'indignait le second magistrat en rompant le silence. « On vous demande si vous avez quelque chose à dire touchant l'accusation qui vous amène ici. » « Ce que j'ai dit se rapporte bien à mon cas. » « Cela prouve qu'il ne vaut pas mieux que moi, et n'a pas le droit d'être assis là pour me juger. »« C'est une histoire inventée, » fit le greffier. « Tenez votre langue. » »« Non, c'est la vérité. » Ces paroles sortaient de la bouche d'Henchard. « C'est la pure vérité, et sur mon âme, cela prouve que je ne vaux pas mieux que cette femme, » continua-t-il lentement. « Aussi, pour échapper à toute tentation de la traiter durement, à cause de ce qu'elle vient de dire, vais-je vous laisser le soin de la juger ?» Cette déclaration suscita dans le tribunal une émotion considérable. Henchard quitta son fauteuil et sortit de la salle en traversant sur l'escalier et devant la porte un public beaucoup plus nombreux qu'à l'ordinaire. La vieille marchande de fromentée avait insinué aux gens qui la logeaient depuis son arrivée en ville qu'elle connaissait des détails singuliers sur le passé de leur grand homme, M. Henchard, et l'espoir de révélations scandaleuses les avait amenés en nombre au tribunal. « Pourquoi y a-t-il tant de curieux autour de l'hôtel de ville aujourd'hui ?» demanda un peu plus tard Lucetta à sa servante. Elle s'était levée tard et venait seulement de regarder par sa fenêtre. « Oh, madame, c'est à cause d'une histoire touchant M. Henchard. Une femme a raconté qu'avant de devenir un beau monsieur, il avait vendu son épouse pour 5 guinées dans une baraque de foire. » Dans tous les récits qu'Henchard avait faits à Lucetta de sa longue séparation d'avec sa femme Suzanne et de sa mort supposée, il n'avait jamais clairement expliqué la cause immédiate et certaine de cette séparation. C'était la première fois que la jeune femme entendait parler de cette histoire. L'ombre s'épaississait sur son visage, tandis qu'elle songeait à la promesse qu'Henchard lui avait arrachée la veille au soir. Voilà donc ce qu'il valait au fond du cœur. Terrible perspective pour une femme qui allait lui abandonner sa vie. Dans la journée, Lucetta s'en alla jusqu'au cirque et fit d'autres courses. Elle ne rentra qu'à la nuit tombante et fit part à Elisabeth, dès qu'elle l'aperçut, de sa résolution d'aller passer quelques jours à Port Brady, au bord de la mer. Casterbridge lui semblait trop lugubre. La voyant pâle et triste, et jugeant qu'un changement de paysage lui ferait du bien, Elisabeth l'encouragea dans cette idée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que la tristesse dont Lucetta accusait Casterbridge était surtout due à l'absence de Farfrae, qui avait quitté la ville. Elle vit donc son amie partir pour Port Brady et se chargea jusqu'à son retour de diriger la maison de la place haute. Après 2 ou 3 jours de solitude et de pluie incessante, Henchard vint frapper à la porte. Il parut désappointé en apprenant l'absence de Lucetta, et l'indifférence affectée avec laquelle il hochait la tête en s'éloignant ne l'empêchait pas de mordiller sa barbe d'un air vexé. Il revint le lendemain. « Est-elle rentrée ? » demanda-t-il. « Oui, elle est revenue ce matin, » répondit sa belle-fille. « Mais elle n'est pas à la maison. Elle est allée se promener sur la route de Port Brady. Elle sera de retour au crépuscule. » Après quelques paroles qui trahissaient son impatience nerveuse, Henchard s'éloigna de la maison.